Chers frères et sœurs et chers amis, le titre de notre étude aujourd'hui, c'est la supervision de la providence et de l'expérience religieuse. Un petit enfant, un soir, refusait de dire ses prières. Lorsque on lui en demandait la raison, elle répondait « Je n'aime pas Dieu. Il est beaucoup trop grand pour moi. » Oui, beaucoup d'auditeurs ont pu ressentir la même chose à un moment ou à un autre. Il y a un sentiment effrayant de mystère et de crainte quelquefois dans l'expérience religieuse. Ceci semble nous élever directement en dehors de la précarité et des éléments changeants de la vie quotidienne, pour nous conduire dans une atmosphère et une présence qui dépassent notre fini. Et alors les vies humaines paraissent sombrer dans une complète insignifiance. Le psalmiste le ressentait lorsqu'il disait « Qu'est-ce qu'un homme pour que Dieu s'en soucie ?» Nous pouvons répondre « Dieu est un effrayant mystère et un fascinant mystère, un mystère effrayant et fascinant. » Moïse ressentait cela comme un commandement. « Enlève tes chaussures de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est une terre sainte. » Exode chapitre 3, verset 5. Lorsque un rayonnement divin enveloppait le buisson ardent sans le consumer, Isaïe réalisait la présence de Dieu et disait « Malheur à moi, je suis perdu. » car je suis un homme aux lèvres impures. » Isaïe, chapitre 6, verset 5. Les trois disciples le ressentent sur le mont de la Transfiguration, lorsque le Christ était vu dans une éblouissante robe blanche, parlant avec Moïse et avec Élie. Saint Luc, chapitre 9, verset 29 à 30. Une lumière pouvant être vue, ne consommant pas ce qu'elle enveloppe ou irradie, a souvent été citée dans les expériences religieuses de toute race et de tous les temps. Toujours, elle paraît être le précurseur à un appel pour un service spécial qui est soutenu et cautionné par une grande puissance et pas simplement dirigée par l'agent humain au niveau purement naturel. Tout d'abord, tandis que je m'agenouillais devant mon lit et regardais devant moi, je voyais qu'une croix noire y avait été tracée. Elle était, on peut dire, terriblement noire. Aucune lumière n'était visible en elle. Mais je cherchais et questionnais. Et voilà, une lumière apparaissait dans la croix. Elle n'était comparable à aucune lumière de combustion. Ce n'était pas non plus une flamme. Je me souviens clairement que le tracé de la croix ne devenait jamais flou ou indistinct comme les flammes auraient pu l'être. Rien ne bondissait sur les contours de cette croix. Mais cette lumière était blanche, d'une blancheur indescriptible, car je n'ai jamais vu de blancheur comme celle-ci. Elle était donc lumineuse et vivante, mais pas constituée de feu ou de flammes telles que nous les connaissons. La blancheur vivante devait être similaire à la blancheur éblouissante vue sur le mont de la Transfiguration. Je me souviens bien d'une expérience où une lumière comme celle-ci me transperçait, me forçant ainsi à mettre mon bras devant mes yeux pour empêcher son éclat de m'aveugler. Je peux encore ressentir la rudesse d'une veste de laine brossée contre mon visage dans la présence d'une lumière qui ne pouvait pas être rendue invisible par un bras matériel couvrant mes yeux. L'ampleur de la vision marquait une ligne de démarcation dans ma propre vie. Et cette expérience m'avait ouvert à une nouvelle dimension. Il ne faut toutefois pas s'attendre à ce que toutes les expériences religieuses ou illuminations prennent une forme aussi visible et tangible. La réalité de la présence et de l'activité de Dieu, elle vient de diverses manières et de diverses formes. J'ai reçu de nombreuses lettres de gens embarrassés, déroutés et même déconcertés, des personnes qui désiraient et priaient, mais ressentaient qu'elles priaient quelqu'un qui n'était pas là, et elles pensaient qu'elles n'obtiendraient aucune réponse à leur prière. Je sympathise pleinement avec ceux qui sentent qu'ils prient quelqu'un qui n'est pas là. Cependant, je pense que leur insuccès à réaliser la toute pénétrante présence de Dieu peut être dû au fait de penser que dans les expériences religieuses, il doit y avoir forcément la sensation d'une présence transcendant la nôtre. Alors ceci peut effectivement être ressenti de temps en temps par de nombreuses personnes, il est vrai. Le docteur Baxter appelait cette sensation « numinous », ayant sa source dans une horrible et terrifiante crainte pour atteindre les plus hauts envols de l'extase mystique comme une expérience étonnamment irrésistible. L'expérimentateur ne peut alors pas douter qu'il est en présence d'un être beaucoup plus grand que lui-même. Les véritables prières n'incluent pas nécessairement cette expérience-là. Elles impliquent néanmoins une communion avec le Dieu dont les activités se manifestent dans ce merveilleux, déconcertant et déroutant monde. Les réponses à nos prières ne viennent pas toujours pendant que nous prions, mais elles peuvent suivre ces prières de telle façon que nous pouvons en voir les connexions. Par exemple, un jour, étant malade, j'ai vu un dossier de classement à vendre qui pouvait m'être très utile à condition de survivre pour pouvoir l'utiliser, ce dont je n'étais pas très certain. Pourtant, je ne désirais pas perdre cette chance si je pouvais survivre. En prière, je demandais à Dieu s'il approuverait mon achat qui entretenait ma guérison afin de pouvoir l'utiliser. Donc, ça pouvait entraîner carrément, pourquoi pas, ma guérison. Alors, m'enverrait-il le Seigneur l'argent nécessaire pour payer cet achat d'une manière imprévisible? En une semaine, l'argent arrivait. Elle provenait d'une source totalement inattendue. J'ai fait depuis bon usage de ce dossier. Je n'avais pas perçu Dieu lorsque je l'avais prié. Malgré tout, j'ai appris à chercher des réponses aux prières qui révélaient que celles-ci étaient enregistrées dans un autre esprit que le nôtre, à l'extérieur, et non pas uniquement dans notre monde intérieur et intime. Cela unit la dirigeante providence de Dieu et la nature de l'expérience religieuse à laquelle le professeur Mackenzie faisait allusion en réponse à de nombreux enquêteurs qui parlaient des difficultés inhérentes aux deux sujets. Quelquefois, les réponses aux prières ne sont pas reconnues parce qu'elles bloquent catégoriquement un courant d'action sur lequel nous avons placé notre cœur. Pourtant, plus tard, lorsque nous pouvons voir à travers ce blocage, quelque chose de nettement mieux devient possible à réaliser. Il y a de nombreuses manières de traiter des sujets tels que la psychologie ou la prière. La méthode qui suit est destinée à ceux qui croient en Dieu et qui le prient de manière variée. Le fait d'examiner la prière dans la lumière des découvertes est donc très important, voyez-vous, et c'est pratique plutôt que théorique pour l'auditeur d'intelligence normale qui lui ou elle souhaite bénéficier des résultats de la recherche moderne et qui est suffisamment certain de Dieu pour réaliser que toute vérité vient vraiment de lui. Le rôle joué par l'intercession, par le désir dans la requête, par l'imagination en apportant nos souhaits en harmonie avec Dieu, sera considéré. Les bases psychologiques pour le repentir et le besoin dans la croissance disciplinée à travers l'effort moral est également indiqué. Cela nous conduit à la nature du culte et au but de la prière. Elle est basée sur l'exemple de notre Seigneur comme une communion croissante avec notre Père Céleste. La présupposition de communion et l'aspect de perspective de sympathie spirituelle et l'unité morale de la volonté, si prier est une réelle communion avec Dieu, alors c'est seulement possible si Dieu lui-même se révèle. Les nombreuses façons par lesquelles un Dieu devient vivant pour nous sont relatées et peuvent aider ainsi ceux qui ressentent le vide de leur prière, mais qui cependant continuent à prier, car la fin de l'âme humaine vers la communion avec Dieu qui est la créée, qui lui a créé tout cela, est donc trop réel pour être totalement ignoré. Cela va sans dire. Donc, chers amis, l'idée de la chaîne, de la côte de maille, de l'esprit tissé maille par maille, fulgurait dans mon esprit l'autre jour pendant la méditation, et cette idée apportait avec elle une réalisation de la réalité de la vie et de l'expérience qui rendait capable saint Paul de faire allusion au plastron de la vertu et au bouclier de la foi. La véritable vie de l'esprit exprime les mêmes idées en termes applicables à l'expérience de chacun. Quand elle prend ainsi forme en nous, nous savons que nous sommes en relation avec la réalité vivante, grâce à laquelle les premiers symboles étaient inventés d'une façon qui exprimait ce que les mots originaux ne pouvaient dire. De nouveaux symboles de ce genre surgissant spontanément en nous amènent avec eux la réalisation qu'ils sont l'équivalent de perspicacités similaires dans les réalités spirituelles qui se sont exprimées par des mots qui ont existé depuis des siècles déjà. Ils nous apportent également le sens de la parenté, de la camaraderie, de la participation partagée dans la vie spirituelle de tous ceux qui ont fait de ce niveau de réalisation les leurs. Donc, nous devons comparer et faire nous-mêmes l'expérience avant que cela ne puisse surgir en mots vifs et spontanés en nous. La chaîne de l'esprit est une idée créatrice avec d'innombrables ramifications et possibilités. La chaîne de la côte de maille est tissée maille par maille, chacune entrelacée avec ses voisines immédiates. La finesse de ces mailles lui donne une grande souplesse, pourtant sa force est très considérable. Sa volonté est défensive, pas agressive. Elle est portée pour protéger toutes les parties vulnérables du corps comme une massive et défensive armure. Elle est comme le bouclier de la foi qui protège du mal extérieur. La chaîne de mailles de l'esprit doit être tissée grâce à l'interaction de ceux qui vivent par l'esprit, tissée dans la vie par l'amour avec la patience. Chaque relation forgée est maintenue à travers les difficultés et forme une maille dans la chaîne de mailles de l'esprit. Il y a une solidarité de la race humaine sur le niveau naturel. Même les conflits entre les hommes, entre les hommes et les femmes, entre les nations supposent un niveau commun de l'humanité. Il n'existe aucun conflit dans ce sens entre l'homme et l'insecte qu'il pique ou sur lequel il marche. Ceci présuppose différents niveaux de vie qui suivent leurs propres fonctions naturelles, sans référence aux principes moraux. L'homme ne ressent pas comme lui incombant l'éducation et l'alimentation de l'insecte, excepté dans le cas des abeilles où ils souhaitent récolter leur miel. Pourtant, les conflits entre les hommes et les nations provoquent des guerres civiles dans l'humanité. L'homme qui en tue un autre tue quelque chose en lui-même. Un homme qui en dégrade un autre se dégrade lui-même. Nous partageons toutes en succession commune, liées à cause de nos parents avec nos ancêtres. Et nous sommes aussi liés à cause des traditions sociales avec la vie de la race, de la nation ou de la tribu. Être humain, c'est être né dans une famille grâce à l'union d'un homme et d'une femme, même si l'homme refuse ses responsabilités, rejetant tout le fardeau sur la femme ou même s'ils le partagent comme un privilège. Être humain, c'est être né dans une culture particulière, qu'elle soit primitive ou civilisée, qu'elle soit stable ou en transition, désagrégée ou même mature. Voyez-vous ? Donc être humain, c'est être né dans un endroit à une heure spécifique, être d'une couleur particulière, qu'elle soit blanche, rouge ou noire, ou peu importe le mélange. Être humain, c'est aussi être en même temps un individu distinct et pourtant participer dans une nature commune. Le véritable jugement implique la reconnaissance de l'égale importance de ces deux facteurs-là. Donc, devenir grand est seulement le fait de réaliser le maximum de possibilités à l'intérieur de l'humanité et non pas devenir supérieur à celle-ci. Les dictateurs et les demi-dieux trahissent leur humanité et à la fin sont détruits par leur manquement à être authentiques avec le pacte humain. Mais il y a également un autre genre de solidarité dans la vie humaine. Ce n'est pas quelque chose qui est donné bon gré mal gré, indépendamment de la façon dont nous vivons nos vies. C'est quelque chose qui s'élève consciemment, ce qui semble être une autre dimension. Le terme « esprit » est encore probablement le meilleur que nous puissions utiliser pour nous référer à ceci, malgré le mauvais usage qui en a été fait. Il a été reconnu dans tous les âges et dans les plus primitives cultures, bien que les descriptions et les compréhensions varient, vu qu'elles peuvent prendre uniquement forme dans le niveau de la connaissance et de l'expérience, aussi bien que dans les capacités mentales de ceux qui sont concernés. L'esprit semble transcender la particularité de l'être humain individuel, le liant de quelque manière avec un grand esprit, Dieu, les deux étant responsables de cette existence humaine et pour cela du monde dans lequel l'être vit. L'esprit transcende également l'environnement social particulier dans lequel chaque être humain est né comme un membre. Il semble aussi transcender le niveau naturel de l'humanité elle-même, indépendamment de la conscience de son potentiel de participation dans la vie de l'esprit. Cependant, la conscience de l'esprit survient à travers nos existences, dans nos limitations humaines, et réalise nos potentialités aussi largement que possible. L'histoire humaine n'est pas seulement un record de tentatives pour survivre physiquement contre les forces naturelles, les tempêtes, les inondations, les pestes ou les famines. Elle inclut le record des explorations spirituelles dans cette autre dimension de l'être qui donne à l'homme la signification de ne pas vivre juste comme un animal. L'homme cherche à vivre une vie comblée, à créer, à conserver et à profiter du partage des pensées, des espoirs, des aspirations et des achèvements avec ses semblables, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont capables d'apprécier le niveau de vie concerné dans lequel ils participent. C'est comme si la structure était donnée dans le monde de la nature incluant la race humaine, avec la possibilité de répondre à l'inspiration de la raison créatrice, donc Dieu responsable des deux, d'une telle manière pour faire ressortir l'harmonie des conflits et des confusions du niveau naturel. Il a été souvent dit que même si les hommes et les femmes paraissent des individus différents, ils peuvent être comme des pics dans une chaîne de montagnes unis à leur base. Il est rarement réalisé que ce sont les plus grandes hauteurs qui saisissent le mieux l'inspiration de l'esprit plutôt que celles situées dans les plaines ou dans les contreforts de la masse-esprit. Ces grandes hauteurs reflètent alors quelque chose en bas dans les plaines pour guider les moins matures, et nous sommes donc reliés ensemble d'en haut aussi bien que d'en bas. La chaîne de la côte de maille de l'esprit, elle est tissée maille par maille par tous ceux qui se sont éveillés à la réalité de l'esprit. Il y aurait ainsi une solidarité de la race humaine sur le niveau naturel. Elle serait accomplie sur le niveau spirituel en proportion de la réponse à l'esprit guidant qui voit et projette l'entière et particulière fonction de chaque partie en lui. Ceux atteignant même une simple lueur dans ce plan se retrouveront en fait eux-mêmes plus intimement harmonisés avec les êtres qui l'ont aussi aperçu, plutôt qu'avec leur famille ou leur clan. Il y a un plan de base de la structure de l'univers déposé en lui qui est progressivement mis à jour par les scientifiques. Et de telles découvertes ont rendu apte l'homme à faire un usage plus riche des ressources naturelles. Utiliser les ressources accrues pour le bien-être de l'humanité et non pas pour la guerre nécessite la reconnaissance de la dimension de l'esprit qui remplit l'humanité en rattachant sa véritable source dans la volonté de Dieu. Cela fait de chaque homme un frère potentiel, et blesser ou tuer un autre et se blesser ou se tuer soi-même. Mais la possibilité doit être réalisée non pas dans les sentiments sociaux qui, pour beaucoup, sont inconnus, mais par des liens réels avec ceux que nous arrivons à atteindre. Les découvertes de la science, elles peuvent être rendues accessibles grâce à des canaux impersonnels. La vie de l'esprit peut uniquement être développée par ceux pour qui elle est une réalité. La vie, elle peut être comblée sur terre si chacun apporte son quota au bien-être de l'humanité, aussi bien que sa foi au Dieu de qui proviennent les ressources naturelles, la science, les dons de l'esprit dans et travers les personnes. Chers amis, la Bible dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » C'est apparemment un chèque en blanc du Père Céleste. Que voulait dire le Christ par « en son nom » ? Nous ajoutons souvent à nos prières à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, ou au nom du Christ. Et étonnamment, cette promesse si surprenante que tout ce que vous demanderez en son nom vous sera donné n'est pas prononcé. En son nom est situé au centre de la phrase. Donner le nom de quelqu'un entraîne de réelles responsabilités. La logique veut que nous apposions notre signature sur un chèque lorsque nous avons suffisamment d'argent sur notre compte bancaire pour en couvrir le montant afin que la banque puisse honorer notre chèque. Visiblement, c'est pourquoi, au nom du Christ, inclut toutes ces choses-là. Il peut avaliser et mettre son saint nom sans réserve. Ceci ne peut s'appliquer aux requêtes embrouillées. Leur réponse engendrerait des résultats qui détourneraient avec les besoins réels des autres ce qu'ils ne désirent pas. N'est-ce pas suffisant d'ajouter au nom du Christ à chaque prière et d'attendre les résultats? Cependant, le Christ manifestement nous dit de le prendre au mot et d'attendre que Dieu honore les chèques en son saint nom. Trois niveaux d'interprétation possibles peuvent nous aider à apprendre à prier avec puissance. Premièrement, nous avons l'exemple de la vie du Christ pour nous guider vers le genre de choses sur lesquelles il pourrait mettre son nom. Ceci démontrera que la prière citée par le professeur Glenn Clark en exemple fait partie du mauvais genre de prière. Un homme venait vers lui et disait qu'il en avait fini avec la prière, car il avait prié afin d'obtenir la victoire sur un rival et ce dernier avait gagné. Et le docteur Clark lui demandait si la victoire lui aurait été plus nécessaire que à son rival. Il a répondu non, mais il souhaitait incommoder son rival. Nous ne pouvons pas attendre que Dieu honore des prières ayant pour base ce genre-là de motifs, mais nous pouvons attendre qu'il bénisse et qu'il utilise toutes les prières inspirées par l'amour réel des autres. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ était poussé par la compassion, toute chose commençait à se produire et beaucoup de malades étaient guéris. Si des prières demandées dans l'amour réel ne sont pas exaucées de la façon dont nous le souhaitons ou l'attendons, nous pouvons être sûrs que Dieu utilisera cet amour pour satisfaire un besoin plus important que celui que nous voyons. Nous sommes donc membres d'une famille ayant une action réciproque sur de nombreux points et certaines réponses aux prières ne peuvent venir entièrement jusqu'à ce que une coopération humaine puisse paraître, que ce soit par la foi, par l'habileté ou par l'amour. Aucune réponse aux prières ne sera donné aux dépens des autres. En son saint nom, ramène à l'esprit la propre prière du Seigneur, notre Père. Toute prière intéressée, égocentrique, ne font pas exception à cette règle. Deuxièmement, nous possédons les leçons de l'histoire, la manière dont laquelle les débuts du christianisme ont doucement pénétré à travers l'humanité, de sorte que nous puissions dire que certaines choses sont peu chrétiennes. Et pourtant, Pourtant, notre capacité à répondre chrétiennement est inappropriée à les prévenir. Nous voyons aussi que certaines choses étaient considérées comme étant chrétiennes, comme l'Inquisition, qui en fait ne l'était pas du tout. Il y avait des déformations de la chrétienté, des choses qui n'étaient pas du tout au nom du Christ. En examinant le passé, nous voyons les choses avec un regard clair et séparons le froment et les ivraies qui ont grandi ensemble. Ainsi, cela nous permet de voir plus distinctement ce que nous pouvons demander en son Saint-Nom. Troisièmement, le nom au temps du Christ indiquait la véritable partie intime de l'être, son intérieur profond. Il n'était pas juste un symbole. Les Écritures hébraïques sont remplies de choses sur l'importance des noms. Et ceci était montré dans l'histoire du Jardin d'Éden. Lorsque les Écritures disent que Adam nommait les animaux, cela signifiait qu'il voyait leur nature intime et ainsi il pouvait nommer et contrôler ce qu'il nommait. À un certain point critique dans cette histoire, un nouveau nom était donné. Sarai, la femme d'Abraham, devenait Sarah lorsqu'elle mettait un fils au monde, Isaac, dans sa vieillesse. Jacob devenait Israël après cette longue nuit de lutte avec un ange qui lui disait « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Tu as combattu à côté de Dieu avec les hommes et tu l'as emporté. » Genèse chapitre 32, verset 28. Les anciens Hébreux ne prononçaient jamais le saint nom de Dieu. Il était consacré à une intrusion à la divine réalité. Il leur était aussi défendu de reproduire une quelconque image de Dieu qui n'aurait pu que le déformer ou le dénaturer. « Je suis celui qui suis » était le surnom de Dieu. Et Moïse disait « Le « je suis » a parlé. Et puis arrivait Jésus-Christ de Nazareth, un charpentier de village qui acquérait le titre de Christ, le Messie, dans un monde religieux dans lequel les noms signifiaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Lorsqu'il demandait à l'apôtre Pierre « Qui suis-je ?» sa réponse était « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce qui signifie plus, beaucoup plus, que ce que nous pouvons réaliser. « Je suis celui qui suis » devenait le Christ, un nom que nous pouvons utiliser. Le Dieu impressionnant de qui aucune image ne pouvait être créée, il prenait ainsi une forme qui pouvait être nommée. Le Fils du Dieu vivant exprimait l'essence et la réalité de la divinité dans une incarnation historique réelle et unissait le visible et l'invisible, le temporel et l'éternel d'une manière qu'aucune image ou aucun nom ne pouvait le faire. Ici au moins, nous voyons le secret de sa promesse. Tout ce que vous demanderez en mon Père, en mon Saint-Nom, il vous le donnera. Le nom était la conscience. C'était l'être, le « je suis » de celui qui savait là, était vraiment la puissance pour représenter tout ce que pouvait atteindre ce point central de Dieu sur terre. et en lui, la divine image de l'homme était une avec sa source divine, indéformable et indétournable par les péchés, par les négligences ou par les ignorances. En Christ, en son nom, en son être essentiel, tous les désirs incompatibles avec la véritable nature de l'homme de Dieu et de toutes les autres créatures vivantes sont éliminés. Les tentations dans le désert montraient le respect de Dieu pour ses propres lois. Même pour satisfaire la faim du Christ, les pierres ne doivent pas être changées en pain. Même pour créer un choc spectaculaire sur l'imagination des gens, il ne pouvait s'éloigner du temple et n'attendait pas d'être sauvé des conséquences de l'apostasie. Pour guider le monde et pour le sauver, il a dû prendre le prestige des royaumes de ce monde à Satan. Il n'avait pu l'accomplir sans l'authentique puissance qui seulement provenait de l'intérieur de l'être de Dieu. Ainsi, pendant que nous apprenons de lui, pendant que nos désirs égocentriques sont graduellement dégagés de notre profond intérieur spirituel, nous pouvons commencer à prier en son saint nom et constater que nos authentiques besoins sont exaucés d'une façon que nous n'aurions jamais pu prévoir. Nous pouvons demander beaucoup moins qu'habituellement, simplement nos besoins réels qui, eux, seront exaucés. La réalité honore vraiment l'échec signé au saint nom du Christ. De cette manière, le nom est très important. Saul de Tarse devenait l'apôtre Paul après cette conversion sur la route de Damas. Le nouvel homme en Christ avait besoin d'un nouveau nom pour symboliser la mort du vieil homme et la naissance du nouveau chrétien. Permettre à ses amis d'utiliser un nom chrétien était à une certaine époque un grand privilège, et cela incluait un sens d'intimité avec l'être profond. La tendance des noms chrétiens jetait de tous côtés, dans les premières réunions, la possibilité de savoir si une réelle communauté d'intérêt et de respect mutuel pouvait être établie. Dans un sens réel, le nom, par sa familiarité sans connaissance véritable, dépersonnalisait ceux qui chuchotaient. Et pourtant là où le saint nom du Christ était une réalité vivante, le partage d'un nom chrétien dans son sens authentique avait des amis approfondis la camaraderie et ravivait la réalité profonde à travers lequel chacun participe, même si peu que ce soit, dans l'amitié et le service du Christ lui-même. Le Christ disait, quand deux ou trois êtres sont vraiment réunis en mon saint nom, eh bien je suis parmi eux. Et quand 120 personnes étaient réunies d'un commun accord en son saint nom, alors là, le déversement divin de l'Esprit Saint à la Pentecôte balayer toutes les barrières. Des disciples qui avaient fui auparavant et avaient laissé leur maître dans ses besoins devenaient habilités à risquer en son saint nom leur propre vie dans son service jusqu'à ce que tous les hommes voient la gloire de Dieu dans le visage du Christ Jésus. Chers amis, ceux d'entre vous qui ont vu le film de H.G. Wells, L'homme invisible, ont dû être impressionnés, comme je l'ai été moi-même, par la scène dans laquelle des pas apparaissaient dans la neige, exactement comme si quelqu'un y avait marché. Pourtant, il n'y avait aucun signe extérieur de présence de l'homme invisible qui aurait pu laisser ses empreintes de pas dans la neige vierge. Même si rien n'apparaissait devant nos yeux, il était évident par les empreintes laissées dans la neige que quelque chose d'invisible était bien réel dans un certain sens. Des silhouettes imaginaires peuvent se mouvoir dans nos rêves et nos fantaisies, mais elles ne laissent pas d'empreintes de pas derrière elles qui peuvent même être photographiées. Il en est ainsi avec le Christ. Depuis le moment où il cessait d'être visible pour ses disciples, leur disant qu'il était important pour eux qu'ils puissent partir en ordre, que l'Esprit Saint viendrait et les emmènerait dans toute vérité, nous continuons à suivre ses pas. Ceci souvent arrive de manière ou dans des endroits inattendus, montrant la véracité du Christ invisible, transperçant dans les réalités de notre monde d'espace et de temps, laissant des traces fraîches que nous pouvons suivre pas à pas comme elles apparaissent à notre vue. Donc ceux qui ont appris à reconnaître son influence à travers les nombreux et variés canaux qu'ils utilisent, trouvent leur vie riche et comblée. Cependant, ils trouvent aussi que la vie est pleine de surprises, car dès qu'il semble être certain que des intermédiaires convoitent vraiment son contact dans le pardon et dans la guérison, en ouvrant le chemin à travers les enchevêtrements ou en répondant à des besoins particuliers, il semble se retirer de ceci. La présence invisible, elle paraît avoir disparu et la vie s'écoule à nouveau sur le niveau ordinaire. Nous ne pouvons pas douter qu'il a transfiguré tout cela, mais les anciennes prières et les vieilles attitudes ne semblent plus fonctionner. La vie paraît s'être retirée d'eux. Il est très rare de réaliser ce que cela signifie et que rien d'anormal ne se passe en nous ou dans nos attitudes, mais c'est la réelle confirmation que quelque chose ou quelqu'un a été actif derrière le décor. Il est donc indispensable que nous soyons aptes à le reconnaître dans les voies les moins familières. Nous devons commencer à nous fier à ce qui peut être vu et attendu quasi comme naturel, comme de perdre la source invisible de tout ce qui faisait la valeur de l'événement. C'est exactement la leçon que ses disciples devaient apprendre après l'ascension afin qu'ils puissent devenir plus sensibles à une plus large inspiration à travers le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ lui-même. Ainsi, si la lumière paraît se retirer, si les prières ne deviennent plus vivantes, alors prenons ce que le Christ essaye de nous faire réaliser d'une façon différente. Si au lieu de tenter de retourner dans le passé, nous consentons à aller de l'avant, nous découvrirons subitement ces empreintes de pas dans la tentative à être fidèle, à défaut du sentiment de sa présence qui avait amené dans l'ancienne époque tant de joie après la conversion, se réjouir lorsque nous sommes avisés du Christ est très bien, mais rester fidèle lorsque cette conscience se retire de nous jusqu'à ce qu'il se fasse reconnaître d'une manière différente et encore aller au-delà. Donc le Christ invisible, il est là, toujours. Il laisse ses empreintes de pas pour lier le visible et l'invisible, comme l'homme invisible était bien plus que les empreintes de pas laissées dans la neige, ainsi est le Christ plus que chacun des signes qui nous le font reconnaître. Et lorsqu'il cesse d'utiliser un signe sans lequel nous avions commencé à avoir confiance, c'est uniquement pour nous amener à le voir à travers d'autres signes, afin que nous ne prenions pas les empreintes de pas pour le Tout-Puissant qui les a faites. Tous les grands mystiques ont réalisé tout cela. La première extase, comme celle de la réalité de l'esprit, transcendant l'espace et le temps, avait transformé le monde entier dans lequel nous vivons. Celle-ci était suivie d'une profonde et plus impressionnante chute dans la nuit profonde de l'âme. Pendant cette période, le développement avait lieu venant du centre de gravité, le point central de la vie personnelle, de l'égoïsme ou même de la vie sociale, jusqu'au niveau spirituel qui est le fondement et soutient toutes les formes et les plus bas niveaux de la vie personnelle et sociale. Cela est donc beaucoup plus profond que ce que notre propre culture particulière peut posséder. Et c'est pourquoi il existe un lien entre les authentiques mystiques des différentes époques et races qui montrent qu'ils ont partagé une expérience d'évolution en commun. Les tensions de l'adolescence ordinaire ne sont rien en comparaison de ces profondes modifications d'intérêt et de consécration à travers lesquelles le niveau entier de vie est éventuellement relevé pour ceux qui persistent et persévèrent dans leurs efforts. Ceci est alors suivi de la sérénité et de la maturité qui amène une période créatrice qui peut se poursuivre dans nos vieux jours. C'est une créativité de l'esprit. Il existe une créativité exprimée dans l'amitié, une amitié qui est en relation originairement avec la qualité de la vie humaine et de ses relations. Son amour remplace la violence et le prestige de la position ne soutient pas plus longtemps un ego faible. Donc la réalité intérieure, forgée hors de la constance des conflits, est l'unique disposition pour accéder à la portée de ses influences et à la qualité de vie de l'esprit qui irradie à travers elle. Il semblerait que le Christ lui-même soit passé à travers de telles expériences durant les tentations dans le désert avant que le charpentier de Nazareth débute sa mission pour le monde entier, aussi bien visible qu'invisible. Dans la première phase de conscience de la réalité et de la véracité du Christ, les résultats extérieurs sont nombreux et visibles, et c'est comme si Dieu donnait des preuves extérieures de la réalité que nous venons juste d'apercevoir. En outre, D'autres trouvent aide et guérison à travers nous. Et puis survient un changement. C'est un appel pour des formes différentes et plus élevées de service. Tout d'abord, nous sommes désorientés et combattons dans le grand effort avec de moins en moins de résultats et pensons que c'est le mal en nous qui bloque l'accès à Dieu. Mais en temps, ses oreilles sont retirées. Oui, on peut dire, toutes ces œillères vont disparaître et nous allons craindre d'être surpris et même bouleversés. Mais nous devenons donc adultes et nous pouvons être qu'un être développé pour mieux exprimer la conception par une plus grande et une plus sage raison que la nôtre à travers cette agitation-là. Si cela est accepté et vu comme un degré de la croissance et non pas comme un échec moral, eh bien cette période d'évolution possède donc une fascinante et terrible beauté. Et c'est comme un nouveau et profond modèle qui se grave en nous jusqu'à ce que nous puissions voir par nous-mêmes. La vue intérieure, alors, devient réellement nôtre et non pas juste un dépôt transmis par les autres. Tout cela est suivi par une troisième phase. Sa fonction n'est pas d'aller vers ceux qui sont tombés dans les bas-côtés, mais se situe sur le niveau préventif, en devançant ce qui pourrait s'achever dans le mal, le désordre ou le désastre. Ce n'est pas aussi spectaculaire que les guérisons ou les conversions. Pourtant, voyez-vous, ceux qui participent à une telle activité sont conscients que la majeure partie de l'activité du Christ invisible est réalisée à travers ceux qui ont soutenu leur épreuve. Ils n'ont alors plus besoin de voir les signes extérieurs pour se persuader de sa présence lorsque ces empreintes de pas invisibles prennent vie. Voyez-vous, l'influence de ceux qui ont atteint cette troisième phase de maturité est consciente et aisée, comme dans la première période, mais elle est manifestée derrière les décors, pour ainsi dire, et c'est un anonymat, un dévouement conscient qui est plus efficace qu'une revendication de soi-même. L'influence est donc moins directe aux yeux du monde et les fruits ne sont pas si apparents. Mais le bon grain est semé plus largement et prend racine quand une âme humaine est prête à laisser ce grain particulier germer. En outre, au lieu de tenter de découvrir ceux qui ont besoin d'aide au moment opportun, ceux qui possèdent des besoins qui peuvent vraiment être satisfaits seront guidés vers eux. Ils ont appris à voir tous les signes extérieurs et toutes les empreintes de pas du Christ, la réalité invisible du Christ lui-même. Combien de cycles tels que ceux-ci peuvent se produire comme des défis de l'esprit qui nous appelle à le matérialiser, nous qui sommes seulement parmi les contreforts de l'esprit, ne pouvons prévoir. Mais avoir aperçu et expérimenté les profondes cadences de la vie embrouillée sur n'importe quel niveau nous rend aptes à insister fermement jusqu'à ce que le modèle divin soit entièrement révélé et que chaque fragment prenne sa juste place
à l'intérieur de la beauté de l'ensemble, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Découvrir un tel modèle bâti entre les courants mêlés de la vie, en réaliser la nécessité pour les périodes d'expansion et de consolidation préalablement à une autre progression, et partager dans les rythmes de la vie elle-même, et trouver donc ainsi les empreintes du Christ invisible n'importe où. Alors, chers amis, nous souhaiterions tant être dans le lieu supérieur. Nous désirerions tant être le premier jour de Pâques et tant avoir réellement vu ces événements véritables avec nos propres yeux. Avoir vu Jésus-Christ arriver et se tenir là, enfonçant ainsi les portes fermées de notre intérieur créées par nos peurs, l'entendre nous dire deux fois « Paix en vous ». Nous donner ce message le soir sur le chemin du retour à nos foyers, comme le Père m'a envoyé. Ainsi je vous envoie, ça te concerne, toi qui écoutes maintenant. Recevoir de lui son souffle saint, nous donner son Esprit Saint à amener avec nous, nous transformons afin que nous puissions dire à un monde malade de péché. Vos péchés sont pardonnés. Nous désirerions tous tellement que cet endroit dans lequel nous faisons un culte soit en vérité ce lieu supérieur. Pourtant, vous n'avez pas besoin que je dise cela. Il peut devenir ce lieu supérieur. Nous sommes réunis dans sa présence. Il est ici le même Seigneur ressuscité qui venait vers ses premiers disciples. Il est donc parmi nous. Nous savons qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'il est ressuscité que tout ce que nous avons expérimenté dans nos vies, en lui, pour lui, prend un véritable sens. Et cependant, pour une raison ou une autre, l'endroit dans ce passage particulier qui semble attirer mon attention est ce verset qui est situé au centre où il est dit « Il leur montrait ses mains et son côté ». Nous pensons beaucoup à la puissance de guérison du Christ ressuscité. Pendant quelques minutes, méditons sur la puissance de guérison du Christ ressuscité, mais crucifié, car c'est avec ses mains et avec son côté blessé d'une lance qu'il est encore dans les cieux. Et d'autres textes surgissent dans mon esprit. Il y a la totalité du chapitre 53 dans Isaïe, car avec ses mains percées, avec ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a aussi un grand verset dans Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne se penche pas à l'extérieur des cieux, quoique cela soit possible, pour mettre ses mains guérissantes au-dessus de nos vies, à distance, avec une compassion bienveillante. Mais il a été parmi nous, comme notre propre frère dans la chair, et toutes les souffrances que nous avons connues, il les a également connues encore beaucoup plus intensément. Ainsi, je pense que la première chose concernant sa puissance de guérison est sa compréhension qui est sûrement le commencement de toute guérison. Quoi que vous ayez à lui offrir, il comprend. Et après cela, arrive le début de la réalisation de son grand amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est l'éternel incessant déversement de la propre vie de Dieu et non pas juste l'éternelle minute après minute heure après heure, année après année, c'est un don de vie, une vie abondante. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu à nous dans une mission de guérison, c'est lui l'unique qui comprend, qui connaît nos propres difficultés, nos ennuis personnels, que ce soit dans la congrégation, dans notre famille, dans notre société, il sait et il comprend. Pourtant, il est si grand et si puissant, il triomphe même sur la mort. Et notre frère et notre Seigneur, il est donc ressuscité, gloire soit rendue à Dieu. Et ainsi, nous pouvons dire, chers amis, c'est le lieu supérieur. Il vient en nous et il dit « paix en vous ». Il souffle alors sur nous et nous donnons son Esprit Saint. Et nous devenons alors des temples de son Esprit afin qu'il soit en nous lorsque nous retournons dans nos foyers. Si par nos cœurs, par nos conversations ou par l'imposition de nos mains, la guérison se produit dans la communauté, c'est lui qui la donne. Nous sommes donc simplement des intermédiaires par sa merveilleuse grâce et miséricorde. Ainsi, loué soit le Seigneur qui est parmi nous et louons à lui car il nous montre ses mains et son côté. Nous allons, chers amis, terminer par la prière. Prions donc simplement ensemble. Dieu trois fois saint, nous pourrons jamais assez te remercier pour nous avoir offert ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver corps, âme et esprit. Seigneur, il est important pour nous de reconnaître que sans ton appui et ton aide, par nous-mêmes, nous serions incapables donc d'aucun secours possible pour ceux qui sont perdus, ni pour ceux qui sont malades. Je sais, de par ta sainte parole, que c'est la volonté de Dieu que nous ayons une santé parfaite du corps, de l'âme et de l'esprit. Je ne désire pas de recevoir la guérison uniquement dans le but d'être débarrassé de mes souffrances, mais pour que je puisse devenir un témoin vivant de ta sainte grâce. Je crie à toi, ô Seigneur, d'étendre ta main guérissante sur ceux qui te le demandent à l'instant même et de les guérir afin qu'ils soient ni à la charge de leur famille, ni à la charge de leur société. Par la foi, je te remercie pour ton aide en ton saint nom. Ainsi soit-il. Amen.